Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu.
Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. C'est la consigne de saint Paul aux Philippiens que malheureusement nos traductions ne rendent pas exactement comme il faut. Notre traduction, qui est pourtant bonne à certains égards, ici traduit par bienveillance. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. C'est bien, c'est beau, c'est très bien, mais ça n'est pas le mot exact et c'est dommage. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Beaucoup de Bibles traduisent que votre modération soit connue de tous les hommes, ce qui n'est pas encore exact. La sérénité dit plus. Rien à voir avec le fatalisme ou certaines résignations. La sérénité. Est-ce que nous n'avons pas été marqués dans notre vie, les uns ou les autres, par des personnes qui étaient sereines ? Tel prêtre nous a marqué profondément par sa sérénité. En toutes circonstances, que ce soit joyeux ou douloureux, il était serein. Peut-être une grand-mère, un grand-père. Tel jeune, c'est plus rare dans les jeunes, parce que ça demande un peu plus d'expérience, de recul. Les saints sont sereins. Les saints baignent dans la sérénité de la vie. C'est ça qui évangélise, c'est ça qui étonne notre monde si agité, notre monde si violent. C'est étonnant, c'est curieux, c'est une question pour tous quand on rencontre une personne qui est vraiment sereine. Qu'est-ce que c'est que la sérénité ? La sérénité, c'est un bain, mais un bain constant dans l'amour de Dieu, dans ce fleuve qui déborde sans cesse. Demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer et se laisser combler. Cet amour débordant, cet amour qui alimente sans cesse, paisible et tempétueux à la fois. Comment faire alors pour trouver cette sérénité ? Où la trouver ? Puisque cette sérénité n'a rien à voir avec l'indifférence. L'indifférence qui serait totalement contraire à la charité. La charité est inquiète, la charité est brûlante. La sérénité n'est pas une indifférence, elle est le total opposé à la fébrilité. En toute chose, dit encore saint Paul dans le texte que nous avons lu de cette épître aux Philippiens, en toute chose, suppliez le Seigneur avec des actions de grâce. Peut-être que c'est là le secret de la prière et en même temps que le secret de la sérénité. Faites connaître vos demandes au Seigneur, ne soyez inquiets de rien, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Alors la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Peut-être que un des secrets de cette sérénité, en même temps que le secret de la prière, c'est la pauvreté du cœur, le manque intérieur. Est-ce que vous vous rappelez les dimanches que nous avons vécus au moment de l'automne ? Cet épisode de l'homme riche qui était parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il n'arrivait pas à découvrir ce qui lui manquait. Justement, il lui manquait le manque. Il lui manquait de manquer. Le contraire de cet aveugle mendiant au bord de la route près de Jéricho, Bartimée, vous rappelez, qui laisse tomber son manteau pour bondir à la rencontre de Jésus qu'il suppliait. Il y avait un autre dimanche, ces apôtres, Jacques et Jean, qui cherchaient le pouvoir, qui cherchaient à être assis l'un à droite et l'autre à gauche de Jésus. Et Jésus qui faisait cette remarque si importante, « Si vous cherchez le pouvoir, vous faites comme les gens de ce monde. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut être grand, qu'il se fasse tout petit, qu'il se fasse le serviteur des autres. » Et puis, juste avant la fête du Christ-Roi, on terminait sur la vision, la contemplation de cette pauvre veuve qui mettait dans le trésor du temple plus que tous les autres, qui avait mis beaucoup, parce qu'elle, elle avait mis de son nécessaire et pas seulement de son superflu. Elle était justement une femme qui n'avait pas peur de manquer. Ou plus exactement, elle était nourrie dans son manque. Ça nous ramène au cœur de cet avant, à cette question fondamentale. Que désires-tu ? Où est ton désir ? Tu désires la richesse ? Tu désires la fortune, la santé, la réussite, le pouvoir, toutes choses que le monde désire, toutes choses que le monde cherche et cherche assoiffé. Même tu cherches le bonheur, tu seras déçu. Tu seras toujours déçu. Les saints ne cherchent qu'une seule chose, c'est le Seigneur. Je cherche le Seigneur, je cherche le visage du Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ce sont ces phrases du psaume que nous disons souvent. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Si nous étions comblés matériellement, nous n'aurions plus de place pour Dieu. Et c'est notre expérience. De temps en temps, nous sommes tellement rassasiés, nous qui sommes dans des pays riches, dans un pays riche, au-delà de toute pauvreté. Parmi nous, oui, il y a des pauvres, mais pas beaucoup parmi nous ici, des pauvres matériellement. Il y a même, on l'avait vu dans l'Évangile, il y a même des pauvres matériellement qui ont un cœur de riche. C'est-à-dire, ce sont des pauvres qui sont attachés à la richesse. Comme c'est difficile d'avoir un cœur pauvre. Quand on est rassasié, on ne peut plus avoir de désir. Tous ces enfants qui sont rassasiés par les cadeaux de Noël, ils font des listes de commandes, de cadeaux. Ça me choque, ça me scandalise. On fait des listes, on fait des commandes. Le Seigneur, lui, est plus grand que tous ses dons. Les dons les meilleurs ne valent pas le don des dons qui est Dieu lui-même. C'est tellement tentant et c'est tellement facile de s'arrêter à ce que Dieu donne sans le désirer lui. Désirer le pain du ciel, c'est l'essentiel. Dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. dans la réussite comme dans l'échec, chercher le Seigneur, désirer le ciel. Lui, cette phrase de saint Paul est tellement impressionnante. Lui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. La vraie pauvreté, c'est ça la richesse, le manque. Comme dira saint Paul, qui le comprend profondément, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis fragile que le Seigneur me comble. La tribulation, écrit-il encore dans cette même épître aux Philippiens, la tribulation produit l'espérance qui ne déçoit pas. Alors, tu seras comblé au-delà de tout désir, comme Marie. Marie, qui est totalement pauvre d'elle-même, est comblée au-delà de tout, puisqu'elle est comblée par le Seigneur lui-même, qui se fait vie en elle. Et nous voilà retournés à la première lecture de Sophonie. C'est peut-être la bonne nouvelle qui nous vient de loin, c'est au 8e siècle avant Jésus. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël, car le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur, le Seigneur est en toi, pas seulement à côté de toi, en toi. Vous rappelez ce que nous disions aussi à propos du disciple, avoir Dieu à ses côtés, c'est bien. Je cherche à avoir Dieu à mes côtés. C'est mieux d'aller aux côtés de Dieu, mais ce serait mieux encore d'aller en Dieu et d'avoir Dieu en soi. C'est précisément ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Il veut faire un avec nous. Alors, ça nous renvoie à l'évangile d'aujourd'hui. Les gens vont se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et lui demandent les uns et les autres, que devons-nous faire ? Jean ne dit pas des choses extraordinaires. Il dit simplement, si vous avez deux manteaux, eh bien, partagez, donnez-en un à celui qui n'en a pas. Si vous avez de quoi manger, partagez avec celui qui n'a pas de quoi manger. Si vous avez une solde, contentez-vous de ce qui vous est donné. Si vous êtes publicain ou collecteur d'impôts, recevez ce qui vous est fixé, mais ne désirez pas plus. Voilà la conversion. La conversion, le baptême de conversion que Jean propose s'accompagne de cette nouvelle manière de vivre, une manière de vivre qui est dans la sobriété, pas dans l'exploit ascétique, pas dans les efforts qui sont au-delà de nos forces, des choses simples, simplement être attentif aux autres, attentif à ceux qui sont autour de nous. Moi, je vous baptise dans l'eau, je vous baptise de ce baptême de conversion. Lui vous baptisera dans l'esprit et dans le feu qui purifie toutes choses, qui purifiera les dernières scories de votre cœur. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire il vous plongera dans cet esprit, l'Esprit de Dieu qui est source de vie, l'Esprit de Dieu qui sanctifie et qui vivifie. C'est vrai, la sérénité est plus importante que l'activisme, plus importante que la fébrilité de la charité qui manque sa cible. Regardons dans ces jours qui nous séparent encore de Noël, regardons Marie dans l'attente. Marie est enceinte, elle brûle de charité. Elle va à la rencontre de sa cousine Élisabeth pour lui rendre service, alors qu'elle attend Jean le Baptiste précisément. Marie brûlante, mais pas fébrile. Marie impatiente, mais profondément patiente. Marie sereine, elle court sur les collines de Judée, elle exulte de joie dans le Seigneur. Elle est déjà infiniment douloureuse parce qu'elle porte un mystère qui est plus grand qu'elle. Douleur délicieuse, je tremble en disant ces mots, et pourtant il faut que je le dise, douleur délicieuse d'un mystère qui l'emporte au-delà d'elle-même. Elle sera sereine encore dans les jours du tombeau, quand le Seigneur sera disparu, que les femmes seront affolées, agitées. Elle est sereine et ne s'occupe que de consoler Pierre, qui est revenu parce qu'il a conscience d'avoir péché. C'est la bénédiction solennelle que nous disons tous les dimanches de l'Avent. Dans le combat de cette vie, que votre foi soit ferme, que votre espérance soit joyeuse, et que votre charité soit efficace. C'est ce que je nous souhaite à nous tous dans ces derniers jours de préparation, que notre cœur s'ouvre dans la sérénité à l'attente de notre monde. Voilà la vraie bonne nouvelle. Amen.